Bonjour, nous sommes le 14 juin 2024 et le week-end dernier, dimanche, j'ai pu voter en France, voilà, au titre de citoyen européen et j'ai voté par avance pour le Front populaire. Bon, il n'était pas encore Front populaire. Il y a un certain nombre de composantes qui se sont mises ensemble et qui vont se présenter sur un front uni. Si vous lisez mon blog depuis 2007, vous savez que c'est le genre de choses que je prône, voilà, que je préconise depuis pas mal de temps. Alors, si vous voulez mon avis, vous m'avez rien demandé, mais je vous le donne quand même. Et puis, de toute façon, vous l'auriez deviné, ça fait un moment que je dis beaucoup de bien de Monsieur François Ruffin et je vais pas m'arrêter aujourd'hui. Donc, si comme candidat Premier ministre, au cas où cette liste Front populaire l'emporterait, il me semble qu'il est le meilleur candidat. Alors, depuis un certain temps, dans mes billets, dans les vidéos que je fais comme aujourd'hui, j'attire l'attention de tout le monde en général et de la gauche en particulier sur le fait que, premièrement, la gauche a une représentation du travail surannée, je l'appelle parfois antédiluvienne. Il faut réfléchir à ce qu'est devenu le travail. Voilà. Alors, petite publicité personnelle, à la rentrée, il y a un très grand organisme français qui me demande, voilà, d'être le keynote speaker, voilà, d'être la personne qui va faire la première présentation, introduction au sujet de manière générale, sur la question de que devient le travail dans le cadre de l'intelligence artificielle. C'est une excellente initiative de la part de cet organisme et d'abord je le remercie de m'avoir invité et j'attire l'attention des autres et en particulier peut-être des partis politiques qui constituent le Front populaire qu'il faudrait qu'ils remettent un petit peu à l'ordre du jour leur réflexion sur le travail. Le travail, c'est autour du travail. L'International des travailleurs, je vous rappelle, le premier grand mouvement voilà, d'unification à l'échelle internationale, on l'appelle surtout l'International, l'International des travailleurs, c'est sur cette question du travail que les gauches se sont rassemblées. Il ne faut pas qu'elles se restent prisonnières d'une représentation surannée de ce qui est devenu le travail dans notre monde. Lafargue, gendre de Karl Marx, avait écrit un éloge de la paresse au titre provocateur, mais qui voulait dire que le travail, c'était pas quelque chose qui est nécessairement bon, ni pour la santé, ni pour autre chose. On aimerait bien faire autre chose. Le travail a surtout été des corvées jusqu'ici. Et s'il y a moyen de s'en débarrasser, c'est une bonne chose. La raison pour laquelle on le fait pas, et pourquoi la gauche ne préconise rien dans ce sens-là, vous le savez, c'est parce que la personne remplacée par une machine n'est pas compensée d'une manière ou d'une autre par le fait que son travail sera fait par la machine. C'est uniquement sous forme de dividende pour le propriétaire de la machine que la nouvelle richesse créée par elle va être redistribuée. Et pas redistribuée du tout, elle va aller dans la poche du capitaliste. C'est pour ça que je propose depuis un certain temps, pour financer la gratuité pour l'indispensable, une taxe que j'appelle Sismondi, parce que Sismondi, c'est donc ce philosophe suisse qui, pour la première fois, ancêtre du, voilà, ancêtre du socialisme, qui pour la première fois a véritablement posé cette question. Il faudrait que le travailleur, la travailleuse remplacée par la machine bénéficie à vie d'une rente perçue sur la richesse créée. Bien entendu, ça peut être dans un cadre voilà, de communauté, de redistribution sur l'ensemble des personnes qui sont remplacées par la machine. Première chose. Deuxième chose sur laquelle j'attire l'attention, et toujours source de malentendus, parce qu'on me dit, dès que je soulève la question dans ces termes-là, on me dit, mais vous faites le jeu de l'extrême droite, parce que l'extrême droite pose la question dans ces termes-là. Tout petit détour. En 2015, au moment où M. Trump se présente aux primaires du Parti républicain, il aura le parcours que vous connaissez, d'être en particulier président des États-Unis et d'être candidat, il le sera déclaré officiellement dans quelques jours, candidat du Parti républicain. Je l'ai appelé le général de l'armée en déroute de la guerre de sécession des Confédérés. Bon, alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sous-jacent à aux populations, aux électeurs qui votent pour Trump, il y a ces relents d'une guerre de sécession perdue par les esclavagistes, gagnée par les abolitionnistes, avec pour rétablir la paix dans les ménages, dans la politique locale, on fait des cadeaux, on fait des cadeaux aux perdants, et les problèmes ne sont jamais réglés. À la fin de la guerre de sécession, on avait promis aux esclaves libérés 40 acres et une mule. Il n'en a jamais été question. On a remis en place un système qu'on appelait sharecropping, l'ancien nom du, voilà, l'équivalent en anglais du métayage, et on a simplement rétabli quelque chose qui ressemblait vaguement à l'ancien esclavage, et on a permis aux gens de se proclamer libres alors qu'ils travaillaient pratiquement dans les mêmes conditions qu'avant. En Occident, il y a une grande guerre de religion, celle entre protestants et catholiques au sein du christianisme qui a été réglée, elle est réglée dans nos sociétés. Mais il y a des choses beaucoup plus anciennes, des guerres de religion qui sont toujours là sous-jacentes, des plaies infectées, purulentes, qui sont toujours là. La guerre entre les chrétiens et les Sarrasins ou les morts est toujours là sous-jacente. Ça vous dit quelque chose, l'évangile de Thomas ou évangile des enfants? C'est un évangile qui n'a pas été retenu. On appelle ça un évangile apocryphe qui contient. Il a continué à circuler et en particulier des éléments de cet évangile. De Thomas a été repris dans le message du Coran qui contient un message antisémite extrêmement virulent. Si vous regardez les discussions qui ont lieu en ce moment, les tractations qui ont lieu au sein de ce Front populaire, vous verrez mentionner l'antisémitisme, l'attitude vis-à-vis de la Palestine, etc. En même temps, quand je viens dire, écoutez, il faut réfléchir, il faut vraiment réfléchir au fond de vieille guerre de religion qui est là, purulent en dessous de la surface, on me dit, mais de quoi vous parlez, etc. Ne faites pas le jeu de l'extrême droite. C'est au sein des discussions en ce moment, au sein du Front populaire, la Palestine, l'antisémitisme éventuellement latent à l'intérieur des discussions qui ont lieu. C'est sous-jacent aux discussions qui ont lieu en ce moment autour justement du Front populaire, ces vieilles querelles liées à des guerres de religion qui datent, voilà, je mentionne parce que voilà, l'extrême droite mentionne la bataille de Poitiers, autrefois appelée bataille de Tours, en 732. C'est pas indifférent, c'est pas indifférent. Les Sarrasins, les morts, sont vaincus sur un champ de bataille à Tours, entre Tours et Poitiers. Regardez sur la carte où ça se situe et ne me dites pas que ça n'a aucune importance. Ou alors, c'est un truc revanchard. Il ne faut pas mentionner les croisades parce que voilà, c'est une manière de dire qu'on avait gagné. Il ne faut pas mentionner la bataille de Poitiers parce que c'est une manière de dire qu'on avait gagné. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est une vieille guerre qui est là. C'est une vieille guerre qui est encore purulente. Et quand des communautés appartenant à ces deux camps, les camps vainqueurs, les camps vaincus, etc., sont là. Et qu'on met entièrement entre parenthèses les vieux contentieux, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Il y a cette notion chez Hegel, la ruse de la raison. Voilà, il appelle ça aussi l'esprit du monde, la raison ou l'esprit du monde. Il dit que c'est ça qui est à l'œuvre, c'est ça qui est à l'œuvre dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de... Pourquoi est-ce qu'il y a une ruse? La ruse, dit-il, c'est parce que les contemporains ne comprennent jamais de quoi il est question. Si, il y a parfois des personnages ici et là, et il en cite trois dans son ouvrage La raison dans l'histoire, qui fait une partie de ses leçons sur la philosophie de l'histoire. Il cite Alexandre, Jules César et Napoléon. Il y a des personnes qui ont compris l'époque dans laquelle ils se trouvaient, mais tout le reste en général, et donc trois personnages sur l'histoire, c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut faire, nous, c'est de voir quelles sont encore les grandes forces, la raison et la déraison surtout, qui sont à l'œuvre dans l'histoire. Il faut les repérer et en parler, parce que sinon, voilà, justement, ce sont des choses, ce sont des plaies qui ne cicatrisent jamais, ce sont des plaies qui continuent à être infectées. Il faut mettre ça sur la table, surtout si on en parle, mais en faisant semblant qu'on n'en parle pas. Voilà, quelques petits conseils. Alors, je termine sur une note. Il n'y a rien à voir, absolument rien à voir. Mais je veux en parler parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui. Les inondations en Floride, vous me direz, ça n'a absolument aucun rapport. Vous avez raison, mais pas tout à fait. Parce que pourquoi? Pourquoi des inondations en Floride? Et on voit ça, il y a très beau petit film qui ont été faits. Je ne sais plus si c'est dans le New York Times ou le Washington Post. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La mer monte, la mer monte. Ça veut dire que les marées montent plus haut qu'elles ne faisaient auparavant. Dans ces petites villes sur la Floride, hein, qui est extrêmement plate, vous pouvez voir ça sur les images, c'est très beau. La mer monte, elle entre dans le système des égouts à hauteur de la mer. Vous voyez les rues qui se remplissent d'eau parce que la mer monte plus haut que d'habitude. Et vous voyez les bouches d'égouts qui sont des fontaines. Voilà, vous voyez les rues qui se remplissent d'eau à la marée haute. Et puis vous voyez des pluies torrentielles liées au réchauffement climatique. Alors, des pluies torrentielles sur un paysage où il y a déjà de l'eau qui rentre par le système des égouts qui en principe devrait drainer l'eau vers l'océan quand il pleut, vous voyez ce que ça donne? Il y a une double source d'inondation. L'eau ne peut pas s'écouler. La preuve, c'est qu'il y en a encore qui est en train de remonter de l'océan au moment où la pluie commence à tomber. Ça aussi, ça c'est en arrière-plan. Et ça, c'est une force qui joue maintenant. Le réchauffement climatique a lieu, la montée des eaux, les villes devenues invivables durant les étés, c'est là, là aussi quelque chose qui doit rester au centre de nos préoccupations. Il faut non seulement qu'on puisse voter, il faut qu'on puisse vivre dans des pays démocratiques, hein, mais il faut aussi qu'on puisse y vivre tout court. Et ça, il faut qu'on s'en occupe par ailleurs. Voilà, allez, à bientôt.